France Culture.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Entendez-vous l'écho, une heure ensemble et en direct pour observer et comprendre l'économie en pratique et en théorie. La pratique, c'est en première partie avec la question d'actualité à 6 jours du premier tour des élections municipales et après avoir abordé les questions de l'industrie et du logement, place à la gestion des finances par les communes. Il y a eu évidemment tout un ensemble de lois et d'actes de décentralisation. Seulement voilà, le contexte a changé, le contexte national budgétaire s'est tendu et les collectivités locales doivent-elles aussi participer à l'effort? Alors quelles conséquences pour les élus locaux et les habitants des communes? Nous en parlerons avec une économiste et un politologue. Et puis en seconde partie d'émission, place à la théorie, mais qui d'une certaine manière cette semaine est pleine de conseils pratiques. Nous allons nous intéresser aux notions de conflit, d'imagination, de démocratie au sein de l'entreprise en marchant dans les pas d'une pionnière du management. Et c'est encore notre invité du jour qui en parle le mieux.
On a réellement été, et on le confesse et on l'assume totalement, y compris moi qui suis chercheur et qui ne devrais pas assumer ça, je le dis, on a été des lecteurs amoureux de Mary Parker Follett, tellement l'idée, tellement on avait trouvé de fluidité dans l'idée, tellement on avait trouvé de puissance et à la fois de finesse dans la façon d'exprimer un certain nombre des choses qui nous semblent être fondamentales et fondamentales sur le vivre ensemble, le travailler ensemble, le management, mais pas que le management, la démocratie, le leadership, etc.
Enfin, à 14h55, nous retrouverons l'économiste Béatrice Charrier qui tire son fil écho, un fil qui nous guide cette semaine à travers les méandres des prix du logement. Mais avant tout cela, une parenthèse pour revenir sur l'actualité de la semaine passée. La presse et les médias en général furent pleins du bruit de la guerre et très rapidement après le choc général ont suivi les inquiétudes vis-à-vis d'un choc pétrolier, gazier, bref, énergétique. Dès le dimanche 1er mars, la crainte était présente alors que les prix avaient augmenté de 13% à l'ouverture des marchés lundi. Iran, la facture mondiale de la guerre, pouvait-on lire en une des échos mardi dernier. La guerre au Moyen-Orient fait bondir les prix du pétrole et du gaz, ça c'était dans le Figaro. Ou encore Iran, la crainte d'un choc économique mondial en une du Monde. Jeudi, tous les regards se sont braqués sur le détroit d'Ormuz, par lequel, vous le savez sans doute déjà, transite environ 20% de l'offre mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié et qui est aujourd'hui en état de paralysie quasi totale. Si un tel blocage venait à se prolonger, analysait Bloomberg il y a une semaine, le baril pourrait franchir le seuil des 108 dollars contre 60 début janvier, précisant à l'époque qu'on était loin du triplement des cours qui s'était produit entre août 1973 et janvier 1974 lors du tout premier choc pétrolier. Or, le seuil des fameux 100 dollars a été franchi ce matin à 111 dollars le baril, une première donc depuis 2022. Alors chacun tente de s'organiser. Mercredi dernier, une libération collective des réserves stratégiques était envisagée par les chefs d'État du G7. Jeudi, le département du Trésor américain a autorisé l'Inde à acheter du pétrole russe pendant 30 jours, ce qui tombe relativement bien. 22 millions de barils de brut russe invendus se trouvent en ce moment même dans des pétroliers à l'arrêt en Asie. On voit l'effet d'aubaine pour la Russie, qui jusqu'ici puisait dans le Fonds national du bien-être destiné à soutenir l'effort de guerre pour compenser la baisse des recettes pétrolières. Autrement dit, quand la guerre alimente la guerre. En Europe et en France, le choc est bien davantage gazier et bien davantage celui des prix que celui de l'approvisionnement. Si nous importons 90% de notre gaz, ce dernier provient majoritairement des États-Unis. 10% seulement vient du Qatar. Tout va dépendre de la durée de la guerre en Iran et des blocages commerciaux. Si la situation est stabilisée d'ici à 3 semaines, l'impact sera limité. Au-delà, cela aura des conséquences sur les investissements et les emplois dans plusieurs secteurs, prévenait Guillaume Frémaux, président du syndicat des industries des peintures, enduits et vernis jeudi dernier dans Le Monde. Aucun blocage de prix ou de baisse de TVA sur les carburants, le fuel ou le gaz n'est pour l'instant prévu. Alors moi, ça fait 8 ans que je travaille au sein d'Entendez-vous l'écho et des émissions sur les risques économiques que font peser les tensions géopolitiques. Nous en avons fait en juin dernier, lorsqu'Israël avait déjà frappé les installations iraniennes du champ gazier de South Pars, en partageant avec le Qatar les 15 et 14 juin. En mars 2024 aussi, lorsque les Houthis avaient visé au large du Yémen le navire marchand américain MV True Confidence. En janvier 2020, lorsque le général iranien Soleimani avait été abattu par un drone américain, le cours du pétrole avait bondi de plus de 4% et dépassé 69 dollars le baril. Sans parler des blocages aux origines variées, de l'effondrement du pont Francis Scott Key de Baltimore morts provoquées par le cargo d'Ali en mars 2024 à la sécheresse qui sévissait dans le canal de Panama durant l'été 2023. Canal de Panama qui avait fait l'objet des convoitises de Donald Trump en janvier 2025 et donc là encore d'une émission. Sans oublier évidemment l'Ever Given, porte-conteneur bloqué dans le canal de Suez pendant 7 jours en mars 2021 et qui avait mis le commerce mondial en émoi. De toutes ces émissions ressortait systématiquement un constat, celui de la vulnérabilité d'une mondialisation qui semblait pourtant inarrêtable et celle qu'engendre une dépendance au pétrole dont on ne s'est jamais vraiment émancipé, loin s'en faut. Mais les constats ne se doublaient alors pas d'une inquiétude profonde vis-à-vis du prix à payer en vie humaine. C'est le cas aujourd'hui et c'est d'autant plus le cas que désormais la guerre en Iran concerne une autre ressource stratégique, l'eau. Les usines de dessalement au Moyen-Orient, normalement protégées par le droit international, sont elles aussi menacées de paralysie face au risque de marée noire et au risque de bombardement devenu réalité à Bahreïn, dont une usine a été touchée hier, selon le ministère de l'Intérieur du pays, information relayée par l'AFP. La RTBF rappelle qu'en Arabie Saoudite, 90% des besoins en eau potable de la capitale Riyad dépendent même d'une seule giga-usine, celle de Jubilail, et cite l'existence d'un mémo datant de 2008, produit par l'ambassade américaine sur place et rendu public par Wikileaks, selon lequel Riyad devrait être évacué en moins d'une semaine si l'usine, ses pipelines ou les infrastructures électriques associées étaient gravement endommagées ou détruites. Cette guerre est donc bien une guerre aussi des ressources, mais certaines sont sans doute plus vitales que d'autres. Ce regard porté sur l'actualité internationale, entendez-vous, l'écho poursuit sa série consacrée aux élections municipales qui approchent à grands pas. Place à notre question d'actualité du jour, une actualité qui remonte en réalité à 1982, lorsque Gaston Defferre entame le premier mouvement de décentralisation.
Le pouvoir était entre les mains de l'État. Il fallait d'abord, pour que ceux qui en sont maintenant les titulaires puissent l'exercer, l'enlever à l'État ou à ses représentants et le donner aux élus. C'est cela la décentralisation, c'est la définition de la décentralisation. Qui est mieux placé que ceux qui sont sur place, qui connaissent les hommes, qui connaissent les entreprises, pour attirer des entreprises nouvelles pour développer sur le plan économique et par conséquent sur le plan social, puisque chaque fois qu'on crée ou qu'on augmente l'activité d'une entreprise, on augmente le nombre d'emplois, on lutte contre le chômage.
Alors, à Guingamp, on n'est pas une commune endettée.
Gaël Roblin, tête de liste de Guingamp Solidaire, le 3 mars 2026 sur Bretagne 5.
On a eu un taux d'endettement très faible. Moi, ce que je propose très concrètement, c'est qu'on mette entre 5 et 10% du budget d'investissement dans le cadre d'un budget participatif.
Dans les prochaines années, il faut qu'on s'arme.
Yannick Carlogotte, tête de liste de Guingamp, s'écrit avec vous le 27 janvier 2026 sur Bretagne 5.
Qu'on soit dans une petite ou dans une grande ville, quand on vit en ville, on va devoir accepter l'idée de forte chaleur. Je ne suis pas dans une logique pessimiste, mais de responsabilité. Et c'est collectivement qu'on doit trouver les solutions, mais accepter aussi l'idée que dans un budget municipal, on doit consacrer une part importante à ces enjeux.
Et les transferts de sous, ça se fera aussi ?
Bien sûr, tout se fera, tout se fera.
Tout se fera, nous disait Gaston Defferre, à 6 jours du premier tour des élections municipales. Les programmes ont été scrutés, les bilans tirés, les comptes épluchés et les promesses se sont accumulées. Mais les maires ont-ils encore les moyens de leurs ambitions derrière l'autonomie financière qui est supposée être la leur? Résultat de la décentralisation voulue donc par Gaston Defferre qu'on entendait au début et à la fin de cette compilation sonore. La reprise en main fiscale et la demande de participation à l'effort budgétaire de l'État changent la donne et le cadre se fait plus contraint. Quelles en seront les conséquences? Jusqu'ici, les communes semblent plutôt bonnes gestionnaires de leurs finances, même si 3723 d'entre elles dépassaient fin 2024 le seuil d'alerte de référence de 12 années, contre 3077 fin 2023. Surtout, cet endettement est destiné aux dépenses d'investissement. Or, ces dernières ont augmenté de 23,8% par rapport à 2019, irriguant ainsi les territoires. Les collectivités locales réalisent 58% de l'investissement public, dont les deux tiers sont réalisés par les communes. Retour donc aujourd'hui sur l'évolution de la relation entre l'État et le bloc communal et ses conséquences avec nos deux invités. Marie Breuillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche en économie à l'INRAE et membre du CESAER, le Centre d'économie et de sociologie appliquée à l'agriculture et aux espaces ruraux. Également avec nous, Romain Pasquier, vous êtes politologue, directeur de recherche au CNRS et titulaire de la chaire Territoire et mutation de l'action publique à Sciences Po Rennes. Vous êtes d'ailleurs avec nous à distance depuis les studios d'ici à Rennes, où Thibaut Bourgeon assure la liaison et je l'en remercie. Alors un chiffre pour commencer, 1 797 euros, c'est ce qu'ont dépensé les communes de plus de 3 3500 habitants en 2024, là où les départements en ont dépensé 1204, les intercos 675 et les régions 560. Marie Bruyer, où vont au juste ces dépenses? Qu'est-ce qui relève de la compétence des maires en matière économique?
Le maire a trois casquettes. Tout d'abord, il est responsable de l'ordre public. C'est le premier flic de France, en fait. Il peut prendre des arrêtés, par exemple, comme des interdictions de stationner. Deuxième casquette, c'est le représentant de l'État. Donc, il marie, il enregistre les naissances, les décès. Et puis, troisième casquette, c'est le chef de l'exécutif local. Donc, il gère le personnel municipal, il signe des marchés. Et il vote, il applique avec son conseil municipal les décisions qui sont en lien avec les compétences qui sont les siennes. Alors ces compétences, elles touchent principalement au quotidien des Français. L'école primaire, la cantine, les équipements sportifs, les espaces verts, la voirie ou encore les permis de construire. Certaines de ces compétences peuvent aussi être transférées à l'intercommunalité hein, de façon volontaire ou obligatoire. Et les communes ont un pouvoir que les autres collectivités territoriales n'ont pas. Elles ont la clause de compétence générale. Ce qui signifie qu'elles peuvent intervenir sur n'importe quel sujet d'intérêt public, à condition que ça ne relève pas de la compétence d'autres collectivités territoriales. Et ce qui explique que les maires, par exemple, vont intervenir sur des sujets comme la transition énergétique, le logement d'urgence ou, comme le disait ce candidat à la mairie de Guingamp, sur les conséquences des fortes chaleurs. Pour donner quelques ordres de grandeur des différents postes de dépenses dans un budget d'une commune, donc il y a déjà environ un tiers des dépenses qui sont consacrées à des frais généraux. Par exemple, les dépenses de personnel et des achats des fournitures.
On appelle les fonctions support aussi qui occupent une grande place dans ce budget-là.
Exactement, donc un tiers des dépenses récurrentes, des dépenses de fonctionnement. Et puis, deuxième poste, la culture, vie sociale, sport et jeunesse, qui représente à peu près 18% des dépenses récurrentes des communes. Et ensuite, l'enseignement, la formation et les apprentissages. Ce qui est important aussi de noter, c'est qu'il peut y avoir une forte variation de ces dépenses en fonction de la strate de population. Si on prend donc les communes de 50 000 à 100 000 habitants, elles supportent les dépenses par habitant les plus élevées avec 2 000 euros par habitant en raison de charges de centralité importantes parce qu'elles fournissent des biens et services publics non seulement pour leur population mais également pour les populations
des communes d'échelle.
Avoisinantes, par exemple des piscines. Et puis les communes aussi, c'est à noter, de moins de 100 habitants ont des charges fixes qui sont très importantes et qui font que leurs dépenses par habitant sont élevées, donc autour de 1 800 à 2 000 euros par habitant.
Et ce point-là est effectivement extrêmement important et tout au long de cette émission, il va falloir effectivement bien distinguer les communes en fonction de leur nombre d'habitants et de fait des charges qui leur reviennent. Romain Pasquier, là je m'adresse au politologue que vous êtes, pourquoi ce sont les communes qui ont récupéré toutes les compétences que Marie Breuillet vient d'évoquer? Pourquoi on voit que les régions et les départements dépensent beaucoup moins par an et par habitant? Est-ce que on s'est dit que c'était l'échelon le plus efficace? Pourquoi ce sont ces municipalités qui se sont récupérées entre guillemets de telles compétences?
Tout simplement parce que d'abord dans l'histoire républicaine, ne pas oublier que effectivement la commune est l'échelon de base, l'échelon qui ancre l'idée républicaine, et donc le maire qui incarne, on va dire, ce premier maillon de la République doit avoir des capacités d'action en proximité. Donc à la Révolution française, on transforme 44 000 paroisses en 44 000 communes, et on a encore aujourd'hui, vous voyez, 35 000 communes. Donc il y a là un long lignage historique qui fait que un régime politique tel que la République française s'appuie de longue date, notamment au début de la Troisième République, sur les maires comme l'échelon à la fois, ça a été dit, hein, de représentants de l'État, mais aussi un responsable d'exécutif territorial qui agit en proximité. Et donc ensuite, les départements et les régions n'ont accédé au statut de collectivité territoriale que plus tard, hein, c'est à la fin du XIXe siècle pour le département, gouvernement. C'est en 82-83 pour les régions. Et donc, ce sont des dépenses d'investissement qui sont différentes, plutôt sur le social pour le département et plutôt sur l'aménagement du territoire, les transports, les lycées pour les régions. Donc, le bloc local, parce que attention, oui. il n'y a pas que les communes, hein, les intercommunalités dépensent beaucoup plus que les communes aujourd'hui. C'est le bloc local qui, dans la décentralisation française, est le plus dépensier. Mais j'ai envie de dire que c'est une tendance européenne, voire mondiale. Hein. C'est à l'échelle locale que l'investissement public se fait pour l'essentiel.
Et il faut effectivement distinguer ce qui relève des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement. Marie-Laure Brouillet, vous souhaitiez réagir?
Oui, tout à fait. Une explication aussi du fait que les communes dépensent plus que les régions et les départements par habitant tient aussi fondamentalement à la nature des services publics qui sont offerts à la population, qui sont des biens et services publics consommés quasi quotidiennement par la population et puis qui demandent beaucoup de personnel.
Donc on comprend effectivement que cela finisse par peser aussi sur le budget. Se pose dès lors une grande question, Marie Brouillet, qui nous a beaucoup occupé aussi pendant la préparation de cette émission, c'est de savoir dans quelle mesure les communes font de bons gestionnaires financiers, gèrent bien leurs finances. On a entendu Gaston Defferre au tout début de cette émission, il y a eu un certain nombre d'actes de décentralisation qui instaurent progressivement une forme d'autonomie financière. Alors Marie Brouillet, il faut insister sur ce terme d'autonomie financière. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut, à raison, dire que les communes sont des sortes de petits États en soi? Dans quelle mesure, quelle est la réalité de cette autonomie, finalement? Est-ce qu'elle s'est accrue véritablement au fil des actes? Et si oui, pourquoi? Pourquoi cette autonomie financière est importante?
Les différentes vagues de décentralisation ont permis justement de rapprocher le pouvoir, comme le disait Romain Pasquier, hein, le pouvoir de décision du citoyen, ce qui est fondamental. Hein, la décentralisation, elle permet de rapprocher le pouvoir de là où il y a une meilleure connaissance des territoires. Le maire connaît mieux que l'État d'où viennent les difficultés de logement sur la commune, par exemple, quel est le coût de fourniture de certains biens et services publics, quelles sont les mobilités quotidiennes qui vont justifier des besoins différents en termes d'architecture de lignes de transport. Les maires, effectivement, sont des bons gestionnaires. La décentralisation a permis de rapprocher le centre de décision des citoyens. Une grande part de l'investissement public local est réalisée par les communes, c'est ce que vous disiez, hein, autour de 60%. Reste que l'édifice est complexe, qu'il y a des chevauchements de compétences entre les différents échelons. Par exemple, ce qui est le cas pour la compétence de développement économique, il y a de nombreux financements croisés, des vases communicants entre les comptes de l'État et les collectivités territoriales, et puis que l'État garde quand même beaucoup la main, à la fois sur la norme, sur la ressource, et puis ces dernières années, en particulier durant le dernier mandat des maires, a fortement recentralisé la fiscalité à travers la suppression de la taxe professionnelle, alors ça en 2009, à travers plus récemment la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la suppression de la CVAE, et ce qui fait que les collectivités territoriales sont privées de leviers fiscaux essentiels et qu'en fait, ils sont dans une situation de dépendance vis-à-vis des transferts de l'État.
Romain Pasquier, on comprend qu'il faut tout de suite nuancer finalement cette idée d'une autonomie financière et surtout d'une autonomie fiscale. La main garde l'État, on vient de l'entendre. Alors il y a beaucoup de mécanismes assez compliqués, on n'aura pas le temps de tous les évoquer aujourd'hui, mais notamment via la dotation globale de fonctionnement des collectivités. Les impôts et les taxes, c'est 64,6 milliards d'euros. Les concours de l'État, comme on les appelle, c'est 16,2 milliards d'euros pour les communes. Pourquoi l'État continue à garder la main, alors qu'on pourrait se dire qu'il serait plutôt satisfait à l'idée de se débarrasser d'une gestion des finances, surtout quand ça fonctionne relativement bien dans le cas des communes. Pourquoi il y a toujours cette contrainte-là qui subsiste, cette main de l'État, et comme le disait Marie Brouillet, cette contrainte qui se renforce?
Il y a deux idées, à mon avis, et très importantes à avoir en tête. C'est que depuis 25 ans, donc c'est Lionel Jospin à la fin des années 90 qui a commencé, on a une recentralisation financière. Alors c'est vrai pour toutes les collectivités territoriales. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'autonomie fiscale se réduit. Toutes les taxes locales progressivement sont soit supprimées, soit amoindries. Donc ça a été rappelé par ma collègue, taxes professionnelles, taxes d'habitation, il y a toute une série de taxes comme ça qui... Donc elles peuvent garder une forme d'autonomie financière, les collectivités territoriales, dont les communes, à travers des parts d'impôts nationaux, par exemple. Mais les taxes locales, elles, se réduisent. Alors pourquoi l'État fait ça? Tout simplement parce que l'État est très impécunieux en France. Vous savez qu'on n'a pas eu de budget équilibré depuis 1975 et qu'on est engagé avec un pacte de stabilité européen. Or, on ne l'a jamais respecté. On est toujours bien au-delà des critères, notamment de déficit, d'endettement, etc. Donc Bercy, le ministère des Finances, depuis un quart de siècle, cherche à reprendre la main sur l'ensemble des finances publiques et notamment sur l'autonomie fiscale. Donc finalement, les collectivités territoriales, notamment les communes, mais peut-être moins les communes que les départements ou les régions, sont les premières victimes d'un État impécunieux qui veut essayer de mieux gérer tout en en étant incapable.
C'est un point important, Marie Bruyer, et on va quand même essayer de rentrer dans les détails de ce fameux concours de l'État, de la façon dont l'État, finalement, pour le dire très schématiquement, a dit, bon voilà, on vous donne à vous, communes, un certain nombre de compétences, on va donc compenser d'une certaine manière via des fonds de dotation. C'est tout le mécanisme de la péréquation, hein, qui, c'est-à-dire la capacité à redistribuer une partie des ressources des territoires les mieux dotés vers les plus fragiles, puisqu'on comprend bien que si les communes ont la main sur cette fiscalité, les communes avec des territoires moins dynamiques ou une démographie moins dynamique vont forcément en pâtir. Donc c'est cette fameuse péréquation-là. Vous avez conduit récemment, Marie Bruyer, une étude soutenue notamment par le réseau FILD des finances locales sur ce fonds de péréquation. Qu'est-ce qu'on observe très concrètement? Est-ce que les dotations réduisent réellement les écarts de ressources entre communes une fois les transferts pris en compte? Est-ce que finalement cette fonction égalisatrice de l'État fonctionne?
Effectivement, les inégalités entre communes peuvent être très fortes. Le potentiel fiscal 4 taxes, alors ce sont les recettes qu'une commune percevrait si elle appliquait les taux moyens nationaux à ces 4 grandes bases fiscales, hein, que sont la taxe foncière bâtie, non bâtie, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la cotisation foncière des entreprises. Elle peut être très différente d'une commune à l'autre. Si on prend les deux extrêmes, à Paluel, en Seine-Maritime, qui abrite une centrale nucléaire, le potentiel fiscal 4 taxes et de 54 000 euros par habitant. Et à l'opposé,
oui,
si on regarde une commune de même taille, Thuillé aux Groseilles en Meurthe-et-Moselle, il est de 278 euros par habitant. Donc un rapport de 1 à 200 entre ces deux communes. Et donc effectivement, pour réduire ces inégalités, l'État, il y a deux mécanismes redistributifs qui existent, à la fois de la péréquation verticale, donc de l'État aux collectivités territoriales les plus fragiles, via différentes dotations, dont la dotation globale de fonctionnement, qui quand même équivaut à 15% du budget des communes et 18% du budget des intercommunalités, et puis de la péréquation horizontale. Entre collectivités locales, donc de même échelon, sans passer par l'État, là, ce qui est le cas par exemple du FPIC ou du FSRIF entre les communes d'Île-de-France. Et donc on a voulu, avec mes collègues Camille Criveau, Julie Le Gallo et Laura Delmas, évaluer la performance péréquatrice de ces différentes dotations. Ce qu'on montre, c'est que la dotation forfaitaire, qui est au cœur de la dotation globale de fonctionnement, est très efficace pour réduire les inégalités, mais par contre, elle a un coût unitaire qui est très élevé. Mmh. Alors que d'autres dotations, comme la dotation de solidarité rurale, elle permet de réduire un petit peu moins les inégalités, mais son coût est 3 fois moindre. Et on montre également que les dispositifs de péréquation horizontaux, donc le FSRIF entre les communes de la région Île-de-France et puis le FPIC entre les intercommunalités, restent très marginaux en volume. C'est à peu près un dixième des transferts totaux, mais par contre sont très efficaces, sont les plus efficaces, les mécanismes de péréquation qui sont les plus efficaces. Et autre résultat qui est un peu plus dérangeant, la dotation de compensation intercommunale, elle, a un effet contre-péréquateur. Ce qui signifie que son versement, en fait, augmente les inégalités entre les intercommunalités, du fait notamment qu'elle est ancrée dans des réformes fiscales passées et qu'elle est déconnectée de la capacité fiscale actuelle. Et puis, dernier résultat, on a comparé les déterminants des dépenses et les déterminants de la dotation. Il y a certains facteurs caractéristiques des territoires, comme le vieillissement, l'enclavement des territoires ou la structure du parc de logement, qui sont peu pris en compte dans les dotations. Donc, voilà, pour résumer, un système de péréquation qui fonctionne, mais qui pourrait être mieux calibré et qui ne prend pas assez les inégalités de dépenses de besoins entre les territoires.
Romain Pasquier, on voit donc qu'il y a une forme d'inégalité malgré tous les outils mis en place entre les communes. Au-delà de ça, et c'est ce qu'on disait en tout début d'émission, il y a cette idée que les communes doivent désormais participer à l'effort budgétaire national. C'était le cas dans le PLF 2025, enfin de 2024 pour 2025 et puis celui de 2025 pour 2026. Pourquoi ça semble si étonnant qu'on demande aux communes de participer à l'effort budgétaire? On pourrait dire qu'il y a une forme de logique. Or, on a vu, notamment lors des congrès des maires, que ça avait provoqué une forme de bronca. Qu'est-ce qui crispe à ce point? Est-ce que c'est l'idée, encore une fois, que finalement les communes ne sont pas si endettées que cela, ou en tout cas bénéficient d'une capacité d'autofinancement? Les financeurs prêtent de l'argent bien volontiers parce qu'ils savent que ce sont de bons gestionnaires. Pourquoi il y a une forme de tension à ce point autour de l'idée de participer à l'effort budgétaire national?
Le premier élément, parce que le principal quand même responsable de la dette dans ce pays, c'est deux facteurs, c'est les administrations publiques centrales et la sécurité sociale. C'est pas les administrations publiques locales. Donc, on peut comprendre du point de vue des élus locaux qu'il y a quand même une petite problématique de régler la note, entre guillemets, en tout cas de participer à la note finale, qui est effectivement une note d'austérité budgétaire, alors que vous avez des règles institutionnelles, en particulier pour les collectivités territoriales, où vous ne pouvez pas, par exemple sur les dépenses de fonctionnement, présenter un budget en déséquilibre. C'est interdit sur le plan réglementaire. Voilà. Donc, si l'État déjà s'appliquait cette propre règle d'or, on irait peut-être un petit peu mieux. Vous voyez, une commune, comme une collectivité territoriale, ne peut pas emprunter pour financer les salaires de ses agents. Alors que l'État français emprunte pour financer nos retraites ou financer les salaires de ses fonctionnaires. Donc, il y a deux logiques.
C'est que pour les dépenses d'investissement, je le précise.
C'est que pour les dépenses d'investissement. Mais ça, c'est quand même assez fondamental, vous voyez. Donc, on peut comprendre, lorsque vous êtes soumis à cette règle, que lorsqu'on vient vous chercher pour vous dire « Ah bah attendez, vous allez mettre la main à la poche pour telle ou telle problématique », alors que celui qui vous le demande ne s'applique pas la même règle que vous. Vous avez compris? Donc, je pense quelque chose de l'orge, d'un verre qui est dans le fruit, c'est-à-dire un État toujours plus endetté qui demande des efforts à des collectivités territoriales qui s'appliquent quand même plutôt des règles de bonne gestion. Alors, je dis pas que c'est parfait dans les collectivités territoriales. Certaines ont par exemple dû emprunter de manière inconsidérée, ou ont fait des emprunts il y a une quinzaine d'années, ce qu'on a appelé les emprunts toxiques. Mais enfin, grosso modo, les collectivités territoriales sont quand même bien mieux gérées depuis les lois de décentralisation que l'État central. Donc, je pense que c'est aussi c'est ce qui alimente une forme de défiance aujourd'hui, hein, une défiance entre ce qu'on peut appeler les territoires, les élus locaux et l'État central. Lorsque celui qui demande est un mauvais payeur, un mauvais gestionnaire, il y a un souci de légitimité.
Marie Brieux, vous souhaitiez réagir?
Oui, effectivement, il y a un sentiment d'injustice de la part des élus locaux qui sont globalement, comme le disait Romain Pasquier, de bons gestionnaires. Leur dette ne représente que 9% du PIB.
Même si il y a des gros écarts entre les communes, on le reprécise, il y en a certaines qui sont très endettées, mais effectivement, de façon générale, elles se portent plutôt bien de ce point de vue-là.
Tout à fait, à comparer avec les 120% de dette publique de la France. Et donc l'État a cherché à les associer de différentes manières, à travers des baisses de dotations qui ont été très fortes à partir de 2014, à travers des contractualisations aussi, avec les contrats de Cahors en 2017, qui était une manière de maîtriser l'évolution des dépenses locales en négociant avec 321 grandes collectivités des plafonds de croissance des dépenses de fonctionnement, ce qui fonctionnait plutôt bien, mais ce qui était difficile à soutenir politiquement.
Et on va voir ce que l'avenir nous réserve, puisque le Premier ministre a tout de même en réserve un nouveau projet d'acte de décentralisation. La situation de nos finances publiques rend urgent de recentrer l'État sur certaines missions. Il doit donc s'en remettre plus clairement à d'autres acteurs publics pour exercer certaines compétences. Il citait par exemple les transports, le logement ou le médico-social. On va voir si les communes auront les moyens d'affronter ces nouvelles compétences. Merci à tous les deux, Romain Pasquier et Marie Brouillet, d'avoir participé à cette émission. Et tout de suite, place à la seconde partie de l'émission, et on passe donc à l'histoire de la pensée. Cette semaine, nous allons trouver la méthode pour résoudre les conflits négociés dans l'entreprise, mais pas que.
Vous avez cru bon d'utiliser pour votre titre un mot anglais. C'est donc qu'il n'existait pas d'équivalent en français, et comme le français est une langue majeure, que la chose non plus n'existe pas.
France Culture, entendez-vous l'écho. Aliette Ovine.
Si un concept n'existe pas en langue française, c'est peut-être bien qu'il n'existe pas tout court. Le raisonnement de ce journaliste en 1968 donne le ton, celui d'une méfiance, pour ne pas dire plus, vis-à-vis d'un mot, celui de management, qui figure effectivement dans le titre de cette nouvelle série d'Entendez-vous l'écho, et puis d'une méfiance plus globale vis-à-vis d'une science qui se voudrait discipline ou inversement, et dont les réflexions et les outils reviendraient à encadrer les hommes de façon à les mettre de la façon la plus efficace possible au service de leur entreprise, comprendre par là de son profit. Le tableau ainsi peint ne donne guère envie et par ailleurs fournit un genre de fuel à critique à nombre de chercheurs, philosophes, sociologues pour des décennies jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant c'est bien au management que nous nous intéressons dans cette nouvelle série d'Entendez-vous l'écho, car lorsque l'on se penche sur son histoire intellectuelle, on se rend compte que celle-ci est en réalité composée de figures, de penseurs, de femmes et d'hommes qui, en se demandant comment penser la vie en entreprise alors que celle-ci prenait une place prépondérante dans un contexte d'industrialisation, ont en réalité développé une pensée qui lie principes économiques, philosophie politique, psychologie, sociologie, dans un exercice intellectuel transdisciplinaire qui continue de marquer le quotidien de nombre de travailleurs et de travailleuses, mais aussi de citoyens et de citoyennes. Parce que le management a largement infusé dans nos vies, il convient donc de s'y intéresser et de comprendre le message conçu et diffusé par ces grandes figures. Et aujourd'hui, c'est à celle de Marie Parker Follett que nous allons consacrer cette émission. Miss Follett n'est pas hegelienne, mais elle écrit comme Hegel aurait pu écrire si, vivant de nos jours, il avait eu la chance d'être appelé à arbitrer une grève ou à mettre au point des grilles de salaire minimum. Voilà ce que disait d'elle un lecteur et recenseur de son ouvrage publié en 1924, Expérience créative, contemporaine d'un management scientifique qui émerge au début du XXe siècle aux États-Unis. Marie Parker Follett fait de l'expérience vécue la clé de la résolution des conflits et de l'imagination une compétence essentielle. Pionnière et prophète, nous allons la découvrir à travers les yeux de notre invité du jour qui a largement contribué à sa redécouverte. Sébastien Damar, bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Vous êtes professeur. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur des universités à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes membre de Dauphine Recherche en Management et responsable de l'équipe de recherche M-Lab. Alors, avant d'entamer à proprement parler la construction du portrait de Marie Parker Follett, il nous faut faire un petit détour, notamment parce que vous êtes, vous inaugurez cette série, vous en êtes le premier épisode. Et donc, il nous faut tenter de revenir aux racines aussi intellectuelles, philosophiques de ce qu'est la gestion, le management pour la traduction anglaise. Alors je vous pose la question, qu'est-ce qu'au juste, Sébastien Damar, que le management? Est-ce qu'il s'agit d'une discipline en soi avec ses courants, ses grands théoriciens, ses grandes théoriciennes?
Ah, vaste question.
C'est une très vaste question.
Et merci pour le chapeau introductif qui était très inspirant, très stimulant. En fait, le management s'est construit de façon essentiellement empirique, en réalité. Il s'est construit à travers une définition progressive de ce que sont les activités de management. Essentiellement, le management, c'est une affaire de pratique. Essentiellement, le management, c'est aussi l'art de concevoir, c'est aussi un art. Définir le management, on peut se risquer à une définition tout à fait grossière et provisoire, qui est l'activité de celui qui est en charge d'un collectif. C'est suffisamment large et général pour que ça puisse englober aussi bien celui qui gère un hôpital qu'une université qu'une entreprise du CAC 40.
Et la question vaste, réponse vaste.
Exactement.
Juste au retour de bâton, j'ai ouvert un ouvrage que vous avez contribué à élaborer, L'état du management 2024. Il existe aussi la version 2025 et puis 2026 à paraître. C'est un ouvrage publié par La Découverte dans la collection Repères et dont l'auteur est Dauphine Recherche en Management, donc votre laboratoire. On trouve un chapitre sur le scandale Orpea, un autre sur la controverse comme mécanisme comme mécanique de l'exclusion, le cas de la mode pudique en France, ou encore un sur l'écoute de musique à l'heure du streaming, une exploration empirique de l'expérience musicale de plateforme. Qu'est-ce que ces thématiques ont en commun, Sébastien Damar? En quoi nous parle-t-elle de management?
Je pense que, alors, je vais rester aussi général, mais finalement préciser quand même un petit peu que ces communications, ces papiers, ces recherches, elles ont en commun peut-être la question du faire ensemble. J'allais dire du vivre ensemble, oui aussi, mais du faire ensemble, c'est-à-dire la coordination, le fait de partager un certain nombre de représentations, le fait de partager un certain nombre de valeurs, le fait de partager un certain nombre d'idées sur comment devrait fonctionner le monde. Je crois que c'est ce qui est en commun dans un peu le point commun de toutes ces recherches. Et c'est finalement une question assez fondamentale que se posent les acteurs du management, en fait. Comment travailler ensemble?
Et on voit effectivement que tous les chapitres que je viens d'évoquer, qui ne sont absolument pas exhaustifs, donnent aussi une forme de vision de ce qui se passe, de grands mouvements de la société de façon plus générale. Il n'empêche, Sébastien Damar, il n'empêche qu'une forme de méfiance, comme je le disais, persiste à l'égard du management. Une méfiance quand on combattre un certain nombre de patrons, notamment devenus auteurs. C'est le cas d'André Tessier-Ducrot, ingénieur et chef d'une petite entreprise qui, en 1970, publiait « Le courage de diriger » et était l'invité d'Interactualité.
L'aventure industrielle et son dogme, le management, le fameux management américain, n'exerce aucune séduction sur les Français. Raison, eh bien, des raisons de culture, des raisons de tradition, et peut-être plus encore des raisons d'échelle des valeurs. Quand les Américains définissent le management, ils disent « c'est l'orientation du changement vers la création de richesses à travers la satisfaction des besoins de l'homme ». En langage clair, ça veut dire ceci. Il y a management efficace quand il y a profit, croissance et innovation. Autrement dit, quand l'entreprise gagne de l'argent, grandit et lance de nouveaux produits. Cette finalité n'est guère enthousiasmante pour nous. Le profit, la libre concurrence, l'innovation en soi, mais ça ne nous enthousiasme pas.
Voilà, des Français qui seraient relativement peu enthousiastes. Sébastien Damar, est-ce qu'on aurait tort, effectivement, de considérer le management uniquement comme une méthode ou comme un domaine essentiellement appliqué, avec cette idée de recette qui servirait, qui aurait un but, à savoir le bénéfice de l'entreprise, comme on l'entendait là dans cette archive?
Je pense qu'historiquement, oui, on aurait tort. Parce qu'en fait, l'histoire nous donne donne tort à cet argument, à cette idée. La plupart de ceux qui, parmi les pionniers, ont écrit sur le management et qui étaient des praticiens du management, ont certes parlé profit, ont certes parlé croissance, développement, alors peut-être moins d'innovation. La thématique était peut-être un peu moins effectivement à la mode à l'époque, mais dans les années 1920, des pionniers écrivent sur le management en disant que le management, il est au service de la collectivité. Que la responsabilité d'un manager, disait Oliver Sheldon en 1923, qui est cadre dans une boîte qui est la Rountree, qui est une boîte anglaise qui fabrique des chocolats, de la confiserie, qui est une boîte qui est un pur produit du capitalisme anglais. Et Oliver Sheldon écrit « La responsabilité d'un manager, c'est d'être au service de la collectivité. » La collectivité n'étant pas l'entreprise, mais le quartier, le village, la région, la nation tout entière. Et il parle finalement, dans ce passage-là, en tous les cas, il parle assez peu profit, croissance et innovation, en réalité. Et c'est, je peux prendre aussi l'exemple de Frederick Winslow Taylor, le fameux Taylor du Taylorisme dont on reparlera peut-être. Si vous prenez les premières lignes de son bouquin, là aussi, il est assez peu question, en tous les cas, dans les premières lignes de son bouquin de 1911, de profit, de croissance et d'innovation. Donc, je pense que l'histoire donne un peu tort, enfin, tord un peu le coup à cette idée que le management serait essentiellement focalisé sur les questions de profit, de croissance.
Et pour cela, vous l'avez dit vous-même, Sébastien Damar, il faut revenir sur cette histoire de la pensée managériale, ce qui peut être un peu moins intuitif, un peu moins connu aussi que l'histoire de la pensée économique, par exemple, dont on traite beaucoup ici à Entendez-vous l'écho, et de l'autre côté, peut-être moins connue que l'image qu'on a aussi de la littérature produite sur le management, qui est très souvent liée aussi à la publication de certains manuels qui, pour le coup, sont très appliqués. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous, on a aussi décidé de se concentrer sur cette histoire de la pensée managériale. En 1968, Roger Prioret, qui était alors journaliste à l'Express, publiait un ouvrage intitulé « La France et le management », on y revient. Et l'émission de France Culture Enquête et commentaires l'avait invité justement pour en parler.
En 1920, un Français, Henri Fayol, a écrit, avant que Sloan définisse vraiment le management aux États-Unis dans la pratique, a écrit un livre qui s'intitule « Organiser » qui complétait le travail de Taylor sur le travail en usine, la rationalisation. Ce livre français, d'un Français, n'a pas été lu en France. Mais ce livre français a été, d'entre les deux guerres, enseigné aux États-Unis et continue à l'être. On a passé à côté de ce que nous avions probablement trouvé.
Sébastien Damar, on entend deux choses dans cette archive. Commençons par la première. Le management serait par essence américain. C'est aussi ce que nous disait l'autre archive de 1970. Alors dans quel contexte précisément émerge cette science du management? À quelle époque et puis pour quelles raisons c'est aux États-Unis que tout se formalise, se passe finalement?
Alors, on n'a pas du tout à fait tort de parler de management américain. L'histoire du management, elle est en grande partie américaine. Il est vrai, très probablement lié au fait que les États-Unis c'est peut-être le pays qui a le premier été propulsé dans l'ère du capitalisme moderne, notamment parce que la Première Guerre mondiale n'a pas eu lieu sur le sol américain, mais a boosté l'économie américaine. Mais même avant la Première Guerre mondiale, les Américains réfléchissent à des formes de management rationnel. On a trace de travaux qui portent sur l'organisation du travail dans les abattoirs dans la région de Chicago dans les années 1850. On voit bien que la question d'efficience, c'est pas franchement un terme qui est utilisé à l'époque, mais c'est quand même dans ce sens que vont ces travaux de rechercher une certaine forme de parcimonie dans l'utilisation des ressources. Donc il y a cette idée-là. Il y a peut-être une certaine forme de point d'accroche à la question du pragmatisme américain, qui font que peut-être la question de l'organisation, de la coordination, de l'efficacité, de l'efficience, peut-être que ces thématiques-là ont beaucoup résonné avec une certaine forme de culture américaine. Mais je pense que voilà, la raison principale du fait que le management est en grande partie l'histoire du management est américaine vient du fait qu'effectivement les États-Unis ont été le premier pays à basculer dans l'ère du capitalisme moderne. Je fais quelques raccourcis, quelques caricatures ici. Quelques historiens m'autoriseront à le faire. Et puis tout est venu ensuite très très vite. En réalité, Taylor, c'est 1911. 1912, il y a à peu près 50 000 ouvriers qui travaillent dans des usines qui appliquent la méthode Taylor, ce que certains des détracteurs de Taylor appellent le système Taylor. Donc ça va très très vite et ça va très vite séduire les business leaders américains.
Et c'est intéressant parce que c'est la deuxième chose qu'on entendait dans l'archive aussi avec l'évocation de la figure d'Henri Fayol, qui lui est un ingénieur français contemporain de Taylor, qui s'intéresse peut-être plus aux administrations, peut-être moins au travail à l'usine, mais le raisonnement est similaire. Il y a cette idée de rationalisation, d'accroître l'efficacité. Dans quelle mesure cette vision plus scientifique aux États-Unis, puis en Europe, et puis avec tous les échanges qui ont pu avoir lieu, cette vision-là est finalement la vision dominante, de la même façon qu'il y a une économie hétérodoxe et orthodoxe, cette vision scientifique serait la version dominante à cette époque-là aux États-Unis.
Alors, il faut voir qu'en fait, les premiers à s'être intéressés de façon professionnelle, d'une certaine façon, au management et aux questions d'organisation, ce sont des ingénieurs. En grande partie parce que il n'existe pas d'école ou d'endroit où on forme au management. En France, en particulier, si on prend l'histoire française, en France, les seuls endroits où on forme à la gestion, ce sont les écoles d'ingénieurs. Et Henri Fayol, que vous évoquiez, c'est un ancien élève de l'école des mines de Saint-Étienne. Donc, il a été formé. C'est un ingénieur pur jus et il a été formé à la gestion. Donc, ça veut dire que en grande partie, l'histoire du management, c'est d'abord une histoire d'ingénieur. Donc, c'est d'abord une histoire de personnes qui s'intéressent à l'optimisation des systèmes.
En scientifique.
Henri Fayol, d'ailleurs, est un féru de science, un féru de technologie. Alors, il ne fait pas que diriger une mine à Commentry. Il est également géologue. Enfin, il analyse, il fait analyser, il envoie sur Paris, il envoie dans des laboratoires des fragments de roches extraits dans ces mines pour pouvoir les analyser. Il invente des systèmes. Il y a un système qu'invente Fayol pour faire arriver l'air au fond des mines. Enfin, donc ce sont des scientifiques. Taylor est également devenu ingénieur. Et donc ça explique pourquoi est-ce qu'effectivement, au départ, c'est une affaire d'ingénieur, cette histoire.
C'est une affaire d'ingénieur. On comprend que c'est une version plutôt scientifique donc, qui prédomine, mais qui dit domination, qui dit courant majoritaire, dit aussi interstice, dit aussi alternative potentielle. Et nous en arrivons, Sébastien Damar, à la figure de Marie Parker Follett. Alors peut-être que la façon la plus simple aussi d'appréhender ce personnage et son parcours à la fois intellectuel et biographique, c'est tout simplement d'entendre ce qu'elle avait à nous dire. Je vous propose d'écouter un extrait d'une des conférences qu'elle tient le 5 novembre 1925 devant le Bureau of Personnel Administration, c'était à New York.
La principale fonction, le vrai service de l'entreprise, c'est donner l'occasion aux individus de se développer grâce à une meilleure organisation des relations humaines. J'ai souvent lu que l'entreprise se définissait par sa production, la production d'articles utiles. Mais chaque activité de l'homme devrait ajouter aux valeurs intangibles de la vie tout autant qu'aux richesses tangibles, devrait viser à d'autres productions que celles que l'on peut voir et toucher. Et que signifie utile ? nous pourrions vivre en nous passant de nombreux objets manufacturés. La plus grande utilité de ces objets est que leur fabrication rend possible ces activités multiples et ces relations entre les hommes par lesquelles on crée des valeurs spirituelles. Dans ce domaine, il n'y a jamais de surproduction.
Un extrait d'une conférence donnée par Marie Parker Follett en 1925. Alors, Marie Parker Follett est née en septembre 1868, 3 ans donc après la fin de la guerre de sécession, dans la proche banlieue de Boston. Elle est donc contemporaine des ingénieurs qu'on vient d'évoquer à l'instant avec vous, Sébastien Damar, qui repense donc l'organisation du travail à l'aune aussi des bouleversements économiques, démographiques que connaissent les États-Unis. Marie Parker Follett va s'inscrire dans cette histoire. Est-ce que le texte qu'on vient d'entendre, l'extrait qu'on vient d'entendre, la place quasiment de façon naturelle et systématique dans cette idée d'une alternative par rapport aux pionniers plus scientifiques qu'on a évoqués?
Alors oui, incontestablement, alors pour plusieurs raisons. Alors d'abord, Marie Parker Follett n'est pas une scientifique. Hein. Elle a été formée à Harvard, enfin dans l'annexe féminine de Harvard, au Radcliffe College. Elle a été formée à la politique, à la philosophie, au droit, à l'histoire. C'est pas une ingénieure. Donc elle va aborder sur le terrain, en plus, la question du management. Avec un prisme qui est le prisme des disciplines que je viens d'évoquer. Donc, elle ne part pas avec cette idée que le management est essentiellement l'art d'utiliser les ressources avec parcimonie ou frugalité et avec rationalité. Donc ça c'est un premier point. Par ailleurs, elle se place effectivement un peu en marge du courant dominant, parce que elle s'adresse aux business leaders de l'époque, non pas en leur disant « moi, je vous promets des gains de productivité, de l'efficience productive, je vous livre un autre message ». Et cet autre message, certes, séduit beaucoup les hommes d'affaires de l'époque. On a de nombreux témoignages d'hommes d'affaires de l'époque qui sont très séduits par le discours de Follett. Mais évidemment, les étoiles dans les yeux, les patrons de l'époque les ont quand des gens comme Frank Gilbreth, qui sont des consultants qui sont convaincus par la méthode de management scientifique, les étoiles dans les yeux, c'est là que les patrons en fait d'usine les ont en réalité. Même si Marie Parker Follett vient avec un discours effectivement un peu décalé, on va peut-être y revenir, mais qui séduit aussi.
Ce qui est intéressant, et vous l'avez dit, c'est ce paradoxe. Effectivement, Marie Parker Follett n'est pas une ingénieure. C'est par ailleurs une femme, bon, il faut quand même le préciser. Elle a un parcours intellectuel qui est relativement atypique aussi. C'est rare d'arriver à ce niveau d'éducation aux États-Unis de cette époque. Qu'est-ce qu'il nous manque, Sébastien Damar, pour comprendre la raison pour laquelle elle s'intéresse à ces questions? Qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre chez Marie Parker Follett si on ne comprend pas l'intégralité de son parcours biographique? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'intéresse à ces questions d'organisation?
Alors, je pense qu'il faut presque remonter à son enfance. Une partie de son éducation du côté de sa mère, c'est une éducation de Quaker, donc avec un prisme communautaire qui est évident. Ça, c'est le point de départ. Très vite après ses études, à la fin des années 1890, au début des années 1900, elle va s'orienter vers le travail social. C'est une entrepreneuse sociale d'abord. Alors, elle a un court passage par des activités d'éducation, mais c'est très court. Elle est surtout entrepreneuse sociale. Elle va militer pour l'ouverture le soir de centres qui accueillent les jeunes immigrés irlandais dans la banlieue de Boston pour les instruire. Elle va de fait devoir gérer un dispositif extrêmement large dans lequel elle fait du management, au sens de coordonner, organiser du travail collectif. Elle va même s'adresser aux managers de ces centres-là pour leur donner un certain nombre de règles, de façon de fonctionner et de façon de faire du management, de façon concrète. Elle s'oriente ensuite vers le milieu du management parce qu'elle est obligée de faire des liens entre ces centres d'instruction nocturne là et puis l'écosystème d'entreprise de la région de Boston. Donc elle est mise en contact avec des Henry Dennison ou des Henry Metcalf qui sont des gens qui travaillent pour l'un avec la chambre de commerce et puis pour l'autre avec le Bureau of Personnel Administration. Donc
c'est une femme de terrain.
Elle entre sur la question du management par le terrain et elle y rentre en ayant développé en parallèle tout un édifice intellectuel autour du vivre ensemble, autour de ce qui fait société, autour de qu'est-ce que la démocratie.
C'est ce que j'allais dire, on pourrait presque dire que c'est une penseuse de la démocratie. Elle publie d'ailleurs sa première publication est très politique.
Tout à fait.
Elle s'intéresse au Congrès.
Tout à fait. Alors, elle a deux deux premières publications. La première, c'est à la fin des années 1890, The Speaker of the House of Representatives, qui est un, là, pour le coup, une somme sur de sciences politiques. Et puis The New State en 1918. Là aussi, c'est un ouvrage de sciences politiques qui nous parle démocratie, qui nous parle de la place des individus dans la démocratie, qui nous parle des processus de groupe, qui nous parle du vivre ensemble et du société ensemble, qui parle assez peu management en réalité.
Et en 1924, son ouvrage qui est peut-être le plus connu, en tout cas celui qui incarne peut-être le plus cette pensée managériale, c'est Creative Experience. C'est un tournant aussi dans son parcours intellectuel. C'est là qu'elle se penche sur ces questions et là aussi où elle se saisit d'une notion qui est fondamentale si on veut bien comprendre Marie Parker Follett. Cette notion, c'est celle du conflit dans les organisations. Pourquoi s'intéresse-t-elle à cette notion? De quoi le conflit est-il le nom finalement pour Marie Parker Follett? Quel regard porte-t-elle sur cette notion?
Alors en fait, vous avez raison de dire que c'est le conflit. Le conflit, c'est une notion absolument fondamentale pour comprendre Follett. Elle s'appuie sur une notion peut-être encore plus séminale, encore plus fondamentale, qui est la question des différences. Comment est-ce qu'on appréhende les différences? Follett a été très marqué par ce qui s'est passé avec le traité de Versailles et la résolution de la Première Guerre mondiale. Elle sait presque avant tout le monde que la façon de régler de régler la note en quelque sorte de la Première Guerre mondiale est basée sur la domination.
Et donc ça, c'est une première façon de résoudre les conflits qu'elle évacue.
Et voilà, elle nous dit cette façon-là qu'a toujours eu l'humanité de régler le conflit, c'est-à-dire la domination. Elle nous dit que ça amène à quelque chose qui est toujours insatisfaisant, de même que le compromis est toujours insatisfaisant. Et elle nous dit, en fait, il ne faut pas concevoir les différences comme étant fondamentalement mauvaises. Le conflit, à la base des conflits, sont les différences. Les différences de valeurs, de désirs, de jugements, de préférences, d'intérêts. Et elle nous dit, en fait, ces différences, elles existent. En soi, elles ne sont pas fondamentalement porteuses d'un mal, mais en fait, elles sont tout au contraire une source de richesse. Et donc, le conflit, c'est l'existence des différences. Il faut accepter ces différences. De toute façon, elles sont là. Et il faut que ces différences, elles soient même ce qui va permettre ensuite l'unification, qui va permettre l'harmonie, qui va permettre de trouver des solutions créatives aux problèmes du monde. Donc, elle considère les différences comme étant fondamentalement non nécessairement porteuses de mal. Et le conflit, du coup, la notion de conflit, elle est très, chez Follett, elle est très différente de ce que nous, dans notre vie quotidienne, on considère comme étant le conflit, à savoir la confrontation brutale, la violence, l'échange brutal et violent. C'est pas du tout ce que Follett met dans le conflit. Le conflit, pour Follett, il est chargé positivement, en réalité, au sens où, comme la friction, en fait, sur un violon, c'est l'exemple d'ailleurs qu'elle donne, hein, la friction sur le violon, c'est la friction, clairement deux matériaux qui ne vont pas ensemble et qui, au final, donnent une mélodie harmonieuse et agréable à entendre.
Notamment parce que cette mélodie s'exprime, parce que les frictions se donnent à entendre, et ça également, c'est très important chez Marie Parker Follett, d'exprimer les faits, d'exprimer clairement les données qui font que le conflit, pour ne pas advenir aussi, l'anticiper. Vous l'avez dit, on l'a dit ensemble, la domination, ce n'est pas une solution, le compromis non plus, puisque vous l'avez dit, personne n'est content à la fin. Quelle solution reste-t-il dans ce cas, selon Marie Parker Follett?
Alors, il reste une voie qui est l'intégration. L'intégration au sens... Alors, il faut revenir à l'étymologie de l'intégration, conserver comme entier. Donc, conserver comme entier, ça veut dire que le processus de résolution... J'ose à peine parler de résolution du conflit, tant pour Follett, ça n'est pas un problème, le conflit. Mais si on veut parler avec des termes que l'on comprend, la résolution du conflit, elle passe par cette volonté de satisfaire pleinement et entièrement. Donc conserver l'intégrité, l'entièreté en quelque sorte des désirs, des souhaits, des valeurs de chacun, et puis trouver des solutions créatives, du coup créatives, creative experience,
on y revient.
Trouver des solutions créatives qui effectivement permettent l'intégration, c'est-à-dire cette unification des désirs de tous.
Alors Sébastien Damar, on a pu qualifier Marie Parker Follett de prophète, de pionnière à tout le moins. Ça dit, quand on lit ses recommandations, prendre de la hauteur, maîtriser ses passions aussi, exposer clairement le conflit et mettre toutes les données, tous les faits au grand jour lors des négociations. Nous, à notre époque, en 2026, ça peut nous sembler être de l'évidence. Est-ce qu'à l'époque, ça relevait effectivement d'un esprit pionnier?
Alors oui, ça relève d'un esprit pionnier. Je pense que le conflit... Oui, je dis oui et en même temps oui et non. Je pense que le conflit est chargé négativement à l'époque de Follette comme il l'est chargé aujourd'hui. Quand très clairement on parle d'un conflit, on n'est pas en train de parler d'une situation qui va élever les êtres, qui va les rendre meilleurs, qui va, etc., confère l'actualité, le conflit est omniprésent. Oui, je pense que l'esprit pionnier de Follett vient en ce que, probablement à l'époque de Follett, la question de l'ordre donné, de la hiérarchie, la question de la domination dans les organisations, dans les entreprises, elle se pose peut-être différemment d'aujourd'hui, avec peut-être moins de complexes. On parle d'ordre donné, c'est peut-être un vocabulaire qu'on utilise un peu moins aujourd'hui. Mais à l'époque de Follett, on parle d'ordre donné et elle nous dit clairement que la meilleure façon de s'écarter de cette histoire d'ordre que l'on donne et qu'il faut ensuite exécuter, c'est de convaincre que c'est la loi de la situation. Vous parliez des faits exposés tout à l'heure, c'est la loi de la situation qui effectivement permet à tous de s'en sortir parce que c'est à ça qu'il faut que l'on obéisse d'une certaine façon.
Et on retrouve là l'expérience aussi de la femme de terrain qu'on évoquait au cours de cette émission. Je conseille vivement aux auditeurs, aux auditrices d'aller lire Marie Parker Follett parce que vous l'avez dit d'ailleurs dans une conférence qu'on a passée au tout début de l'émission, mais vous n'étiez pas là, qu'elle a une forme presque de poésie aussi dans la façon dont elle écrit, dont elle s'exprime. Je rappelle, Sébastien Damar, que vous avez travaillé avec François Ayon à l'élaboration et l'édition de l'essentiel Marie Parker Follett, des réponses pour s'organiser et vivre ensemble, citation choisie. Un grand merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Et tout de suite, on retrouve l'économiste Béatrice Charrier et son fil éco.
Le fil éco.
Un studio de 25 mètres carrés se loue 800 euros à Marseille, 1200 à Lyon, 1800 à Paris. Pourquoi ? Bien sûr, il y a l'emploi, les salaires, mais ça ne suffit pas. À Paris même, on paye 15 000 euros le mètre carré dans le Marais et 7 000 euros à Belleville. Derrière chaque prix se cache en fait une équation invisible. Un logement est un panier de caractéristiques, chacune avec son propre prix à calculer. L'enjeu dépasse la curiosité immobilière. Évaluer ce qui n'a pas de marché, c'est pouvoir dire combien vaut une station de métro à 200 mètres ou un balcon, mais aussi le calme, la proximité d'un parc, de l'air pur. Cela permet de mesurer les bénéfices d'une politique de construction urbaine, environnementale ou des transports. La méthode utilisée pour répondre à ces questions est celle des prix hédoniques. Elle est née à Détroit pendant la Grande Dépression. Mais pendant 25 ans, elle est oubliée. En 1939, l'économiste Andrew Court se gratte la tête dans les bureaux de l'Association des constructeurs automobiles américains. Comment comparer le prix des voitures d'une année sur l'autre alors que les modèles changent constamment ? Il analyse des centaines de modèles et propose de décomposer chaque voiture en caractéristiques. Poids, puissance, équipement, dont il calcule pour chacune un prix implicite. Il appelle ces prix hédoniques, du grec hédon, plaisir pour traduire le bien-être ou l'utilité que l'acheteur retire de chaque attribut. Mais son article passe inaperçu. Trop technique pour l'époque. Dans les années 60 et 70, d'autres économistes, dont Sherwin Rosen de l'Université de Chicago, théorisent et appliquent cette idée qu'un bien est en fait un panier d'attributs. Ces étudiants l'appliquent pour décomposer le prix des logements. Localisation, surface, nombre de chambres, vue, sécurité du quartier. L'une d'entre eux, Jennifer Robach, va plus loin. En 1982, elle applique la méthode à une question fascinante. Comment mesurer la qualité de vie qu'offrent les villes ? Son idée ? Observer simultanément salaire et loyer. Si une ville offre du soleil et peu de pollution, les gens acceptent des salaires plus bas et paient des loyers plus élevés pour y vivre. En combinant ces deux effets, elle calcule un indice de qualité de vie et classe les villes américaines. Ces dernières décennies, économistes et promoteurs immobiliers ont affiné ces techniques pour comprendre ce qui explique les différences de prix entre ville ou quartier et prévoir le juste prix de chaque logement. Qualité de l'air, météo, architecture, crèche, collège, biens culturels, tout ce qu'on appelle des aménités. Aujourd'hui, la méthode permet de conclure qu'un parc à proximité augmente le prix d'un logement de 5 à 10% et de l'air pur de 1%. 85 ans après Court, son invention oubliée donne un prix à l'invisible et permet de le défendre. Elle révèle ce que nous valorisons, ou plutôt, ce que les acheteurs solvables valorisent. Un prix pour qui ?
Merci beaucoup Béatrice. Le podcast du Fil Écho est à retrouver sur l'application Radio France. C'est là aussi que se trouve l'émission Entendez-vous l'écho. Abonnez-vous, téléchargez-nous et surtout écoutez ou réécoutez toutes les émissions que vous voudrez pour patienter jusqu'à lundi prochain, puisque c'est à ce moment-là qu'on se retrouvera à 14h.